Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Pourquoi pas moi ? Le thème de ce deuxième épisode porte sur les métiers de l'art. Bonjour Antoine, vous êtes producteur de musique classique. Dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de votre handicap et ensuite nous dire ce qui a fait que vous vous orientiez sur cette voie de la musique classique ?
Alors, j'ai une rétinite pigmentaire, donc un handicap visuel, avec un peu étant malvoyant, avoir encore un peu un reste visuel selon le temps et la luminosité. Et étant mélomane et musicien depuis tout petit, quand j'ai découvert cette maladie autour de 15 ans, j'ai décidé de m'orienter plus tard vers un métier autour de la musique.
Donc c'était une passion depuis petit, hein, mais qu'est-ce qui a fait au fur et à mesure du temps que vous pensiez à cette passion comme devenant un métier ?
Je pense que ça a toujours été là, et puis après le handicap visuel étant également présent, en sachant qu'il allait sûrement s'aggraver au fil des années, et en réfléchissant à quel métier j'allais pouvoir faire, on était dans les années 90, ce qui n'était pas encore simple pour les gens qui avaient une rétinite pigmentaire à ce que ça soit compris, connu, on s'est dit avec mes parents qu'il serait bien que je m'oriente vers ma passion, en fait, tout simplement.
Quel a été le cursus que vous avez emprunté ?
Alors, j'ai eu la chance, par rapport à mon handicap, que ma vue ne se soit vraiment dégradée en ce qui concerne les déplacements, la lecture, l'écriture, à la fin de mes études, en fait, bien après. Donc, j'ai bénéficié quand même d'agrandissements pour les polycopiers, pour les partitions, quand je me suis retrouvé en fac de musicologie, mais j'ai toujours suivi un parcours ordinaire.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé là actuellement ?
J'ai cherché pendant un moment quel métier vraiment faire. Donc j'ai souhaité mettre toutes ces compétences pour aider les artistes et qu'ils puissent développer leur partie administrative et puis également leur communication, donc par l'enregistrement et par la diffusion de concerts autour des enregistrements.
Est-ce que vous pouvez expliquer à une personne lambda quel est votre travail au quotidien ?
Donc mon rôle de directeur artistique des Belles Écouteuses, alors il est également celui du créateur du label, de trouver des artistes qui vont me plaire, qui jouent des programmes, qui humainement ont l'air d'être de belles rencontres possibles, et donc de leur proposer de développer, parce qu'aujourd'hui c'est très dur de pouvoir trouver un label qui accepte d'enregistrer. Alors il y a l'autoproduction, ce qui est très bien, mais l'autoproduction, les musiciens, ils ont leurs concerts, ils ont leurs cours, ils ont leurs répétitions, ils sont à droite à gauche, donc c'est de leur dire, autour d'un label, on va pouvoir vous enregistrer, vous éditer et puis vous aider à diffuser vos concerts ainsi que votre communication autour de Internet, des réseaux sociaux, de la presse, etc.
Et en termes de production, une fois que vous les avez dénichés, si je puis dire, quel est votre rôle ?
Moi, j'ai une excellente oreille. Je suis pour l'enregistrement en binôme avec un ingénieur du son qui, lui, garde la partition. Là, c'est là où il reste peut-être un écueil par rapport à mon handicap, c'est que le matériel, même si on parle de musique, est très visuel. C'est souvent maintenant du tactile, donc il faut pouvoir regarder avec des écrans ce que l'on fait. Alors après, je peux aussi le faire à l'oreille, mais
c'est plus compliqué.
Au four et au moulin, c'est compliqué. Le but, voilà, c'est d'être leur oreille extérieure et surtout leur dire, vous êtes dans la partition, dans ce que vous jouez depuis des mois. Il faut que vous avez vos habitudes, il faut bien comprendre que le produit fini quelque part, vu que souvent ça leur sert aussi à reproduire ce qu'ils n'arrivaient pas toujours à faire en concert avant l'enregistrement et qu'ils peuvent arriver à le faire mieux, encore mieux, vu qu'on a répété et re-répété pour arriver à la meilleure prise, de pouvoir justement se dire, le public sera content parce qu'effectivement, on a mis tous les moyens. Et surtout, quand on a un ou deux musiciens encore, ils peuvent s'entendre, mais quand vous avez 10 musiciens sur un plateau, ils ne peuvent pas tout entendre parce qu'il y a la distance de la salle, il y en a un qui est à gauche, l'autre qui est tout à droite. Donc le rôle du directeur artistique dans son casque, dans la régie, c'est d'entendre tout le monde et de pouvoir dire ce qui manque ou ce qui ne manque pas. Voilà.
Les artistes qui travaillent auprès de vous ont-ils une admiration, je vais quand même dire ce mot. Est-ce qu'il y a une acceptation, une confiance de plus ?
Oui et non, j'ai envie de dire qu'il y a les deux cas, c'est-à-dire que, mais le plupart des cas, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a le premier cas où justement le fait de ne pas pouvoir lire la partition, ça peut les faire tiquer un peu sur le moment ou même au moment de la post-production. Même on a certains artistes avec qui on travaille maintenant depuis 15 ans qui reviennent parce que justement ils ont bien compris qu'ils avaient un petit plus, est-ce que j'ai pas la partition ? Un peu des fois pour se prendre 5 minutes et se poser des questions, des réflexions musicales, musicologiques qui ne s'étaient jamais posées.
Et en dehors de votre professionnalisme, quelle est la plus grande satisfaction dans votre métier ?
Les rencontres humaines, les rencontres musicales qu'on peut qu'on peut faire, les rencontres auprès du public aussi. Et puis effectivement, c'est vrai que si ça permet de montrer que le handicap est aussi une force et qu'on peut justement trouver des solutions à son handicap, c'est assez important. Après, moi, le plus important pour moi est de me faire plaisir dans ma passion et
bien
le fait
sûr
de produire des disques, d'aider des artistes, bah c'est ma passion, donc j'en suis. Et c'est vrai que je suis assez fier par contre un peu de mon bébé, des belles écouteuses.
Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de certains artistes connus?
On a eu deux artistes de l'ensemble intercontemporain en musique contemporaine autour d'un projet qui était pour l'anniversaire de Pierre Boulez. Après, on travaille avec des salles prestigieuses. On a un ensemble des Monts du Reuil qui sont en résidence à l'Opéra de Reims. On a travaillé là, c'était uniquement pour leurs archives, avec l'ensemble Academia, qui est un ensemble de musique ancienne assez connu pour les gens qui apprécient. On travaille aussi beaucoup avec une association qui s'appelle Jeunes Talents à Paris, qui a, elle, 25 ans et qui a quand même mis. Donc, le concept, c'est de donner sa chance à des jeunes musiciens, et certains sont devenus de très grands talents, comme les frères Capuçon. On a l'ensemble Marilou, qui est un tout jeune ensemble de musique ancienne, et quand les passionnés regardent leur nom, ah oui, je les connais, je les ai entendus dans tel ou tel ensemble.
Si vous deviez donner un conseil à une personne malvoyante ou aveugle qui aimerait faire le même travail que vous, que serait-il ?
Je pense que ça serait plutôt d'échanger directement avec elle, et plutôt échanger les parcours. Le plus important, c'est surtout d'avoir la chance d'avoir autour de soi une famille, des amis qui encouragent. Mon grand projet, c'est le braille musical. Mais il faut avoir cette force un peu, voilà. C'est vrai que le handicap peut donner parfois une certaine colère, une certaine fatigue. Et ce qui est le plus dur, c'est de la transformer en force et de la transformer en énergie pour justement se développer et surtout réussir ses passions et ses rêves.
Et ben vous êtes
Les belles écouteuses, c'est pas forcément un rêve immense, mais en tout cas, moi, c'est un rêve qui se réalise.
Merci beaucoup, Antoine. À bientôt dans Pourquoi pas moi.
Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin Ahuy et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi ?